bonsoir et bienvenue à l'écoute de votre émission préférée de contre-information et de critique des médias. Ce sera surtout ça aujourd'hui. Olivier au micro et Nicolas à l'autre micro.
Et bonsoir, Nicolas au micro.
Alors, vous le savez, on a repris le cours normal du monde. C'est le mercredi soir en direct sur Radio Campus de 22 à 23 heures. Rediffusion d'Alter Echo, toujours sur Radio Campus 107.2, le vendredi à 14h. Et puis, ça recommence, les rediffusions sur Radio Panique, le mardi à 10h. Ça pourrait changer, mais pour l'instant, c'est encore ça. Et puis, le site internet mis à jour, www.collectifaupluriel.net/alterecho, en un seul mot, et avec CH, on ne le dira jamais assez. Alors, les sujets d'aujourd'hui, eh bien, d'abord la reparution du journal du mardi. Je suis allé interviewer, ce n'est pas la première fois, un de ses fondateurs, Laurent Arnaud. Ensuite, nous allons parler de la presse économique et financière, qui est parfois très sincère. Ensuite, nous allons critiquer le JT de la RTBF sur l'Indonésie, par exemple, sur le tueur de Washington, et nous allons reparler du Népal et de ses ventes d'armes, etc. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Olivier et les chers auditeurs.
Et les chers auditeurs, je les oublie parfois. C'est vrai. Ouais. Comme je le disais, on va commencer par le journal du mardi. Eh bien, le journal du mardi, j'espère que vous vous en souvenez, chers auditeurs. Il a été créé en juin 1999 par Laurent Arnaud et Michel Bouffiou, qui avaient quitté de façon fracassante le Télémoustique suite à des histoires de l'affaire du trou, etc. Et justement, le journal du mardi avait au départ une image blanche le mouvement blanc et la marche blanche. Et donc, il avait été créé en quelques semaines. C'était en juin 1999, il y avait eu des élections et ça répondait, selon Laurent Arnaud, à une anémie de la presse face aux enjeux électoraux. Et le journal du mardi avait été lancé, on l'a dit en vitesse, mais aussi avec un capital qui peut paraître ridicule, 2,5 millions de francs belges pour une, je crois que c'était même déjà une société anonyme, mais pour un titre de presse, c'est ridicule si on compare à l'Instant qui avait été lancé quelques années avant et qui avait foiré aussi. Lui, c'était avec 2 milliards de capital. Petite différence. Et donc, en un an, quand même, il avait atteint un lectorat de 30 000 personnes, c'est-à-dire 15 000 ventes. On estimait, le CIM estimait qu'il y avait 2 personnes qui lisaient chaque numéro. Mais voilà, le journal du mardi était un peu parfois rentre-dedans. En tout cas, c'était pas le genre de... C'était pas un produit, disons. C'était plutôt... il y avait de l'info, etc. Et donc, la publicité n'aimait pas beaucoup ça. Et donc, il n'y a pas eu du tout les budgets publicitaires attendus.
C'était un peu impertinent, tu veux dire.
Oui, c'était un peu différent. C'était pas une pub une info très commerciale, très 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 swing quoi. C'était comme disait Laurent Arnaud aussi, on prenait son journal du mardi, et il fallait le Prozac avec parce que c'est vrai qu'on n'enjolivait pas grand chose.
C'est ça, ça a un peu refroidi la plupart des annonceurs qui ont foutu le camp.
Ça a très vite refroidi tous les annonceurs en fait, sauf quelques annonceurs, mais pas du genre des marques de bagnole ou quoi. C'était plutôt des institutionnels et des ONG, des trucs comme ça. Bref, en septembre. Cette absence de pub a sonné le glas du jeune petit hebdomadaire. Mais en septembre 2000, ils ont opéré un premier redémarrage sous une forme tout à fait différente. Donc au départ, c'était un petit magazine en quadrichromie. Et il n'était déjà pas très épais à cause de l'absence de pub, mais c'était sur papier glacé, c'était joli. Et puis là, ils ont changé, ils ont fait un vrai journal sur du papier journal. Il n'y avait pas de publicité, c'était en 2 couleurs. Et ils ont ajouté à leur capital de départ 2,5 millions de francs belges de la communauté française. Ils avaient demandé 5 millions, mais ils ont eu 2,5 millions, mais c'était déjà un début. Et c'était en fait pour montrer ce qu'il y avait moyen de faire avec peu de moyens et pas de pub, etc. Mais ils savaient bien que ça n'allait pas durer. Et donc la situation était forcément temporaire. Ça a duré jusque fin 2000. Après ça, ils se sont dit, on va revenir, mais pas n'importe comment. Il nous faut de l'argent et du vrai du bon. Et donc, ils ont mis sur pied un plan de relance pour convaincre la communauté française de leur octroyer l'aide à la presse à laquelle ils estimaient avoir droit. Et ça me semblait effectivement assez légitime. Et ce plan incluait de nouveaux apports financiers d'investisseurs privés à concurrence de 23 millions. On voit qu'on a changé d'ordre de grandeur. Et les rebondissements de cette affaire-là ont été innombrables parce que chaque fois la communauté française disait oui, d'accord, vous aurez votre aide à la presse à telle et telle condition. Chaque fois que les conditions étaient remplies, il y en avait de nouvelles qui arrivaient. Mais si vous voulez suivre cette saga, vous n'avez qu'à aller voir sur le site internet d'Alter Echo puisqu'on a suivi toute cette histoire de près et vous trouverez ça au fil de nos archives. Finalement, l'aide à la presse a été promise pour septembre 2001 et elle est arrivée effectivement en juillet 2002, donc un an après l'argent des investisseurs privés qui, eux, étaient à temps au rendez-vous. Et donc voilà, puisque vous avez le topo de départ, je laisse Laurent Arnautz poursuivre le récit et répondre à mes
Laurent Arnautz, qui est à
petites
l'heure
questions.
actuelle.
Laurent Arnautz est donc rédacteur en chef, tout comme Michel Bouffioux et tout comme Maurice Magie. C'est un triumvirat qui dirige le journal du mardi dans son côté éditorial. Donc voici Laurent Arnautz que j'ai interrogé cet après-midi.
Donc, nous avons pu relancer donc, le 10 septembre, encore dans des conditions qui n'étaient pas faciles. D'une part, parce qu'évidemment, comme j'ai expliqué, il y avait les coûts dû à la période d'inactivité forcée, on va dire, et au lancement avorté à plusieurs reprises. Il y avait aussi le problème, évidemment, du fait qu'entre le moment où nous avons reçu l'argent de la communauté française et le moment donc on pouvait effectivement relancer, il y a quand même eu seulement un mois et une semaine qui se sont écoulées, ce qui est en plus une très mauvaise période pour relancer évidemment une équipe qui était en plein milieu des vacances. En d'autres termes, on a redémarré, je dirais, sur des bases qui sont encore, je dirais, qui étaient encore difficiles et qui s'améliorent de semaine en semaine. C'est pour ça que les gens qui nous suivent depuis le 10 septembre ont constaté que le journal essaye de s'améliorer de semaine en semaine, de s'étoffer. Et donc, nous espérons, en tout cas d'ici la fin de l'année, d'être vraiment, je dirais, au top de nos possibilités. Il est même possible que d'ici là, nous décidions déjà d'augmenter la pagination de 8 pages.
Oui, parce que c'est une des critiques, on y reviendra, c'est pas extrêmement épais. Ce qu'on constate aussi, c'est peut-être justement en raison de l'absence quasi totale de nouveau de publicité. Est-ce que cette fois-ci, vous avez prévu le coup dans le plan financier de fonctionner au moins avec moins de publicité, voire pas du tout? Comment est-ce que c'est prévu ça?
Mais actuellement, donc, il faut savoir qu'un plan financier dépend de différentes rentrées. Donc, il y a les rentrées des lecteurs, qui sont les gens qui achètent en librairie ou qui s'abonnent.
Petite parenthèse, est-ce que les anciens lecteurs sont au rendez-vous? Est-ce que le lectorat a été augmenté? Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'une part importante des anciens lecteurs est au rendez-vous. Ça, c'est indubitable. Ce qu'on peut dire également, c'est que le taux d'abonnement dès le début, donc dès maintenant ces premières semaines, est très élevé, puisqu'on reçoit beaucoup d'abonnements tous les jours véritablement qui rentrent et qui alimentent notre trésorerie. Et ça, c'est véritablement extrêmement précieux pour ce type de projet. Mais ça nous étonne en fait très fort, parce que nous, on s'était dit, bon, compte tenu des. Même si maintenant on a une structure financière beaucoup plus solide, compte tenu des déboires passés, peut-être que les gens ont remis un certain temps pour retrouver la confiance pour s'abonner. Et bien, apparemment, non. Les abonnements rentrent, je dirais, comme les aiguilles d'une trotteuse. Et donc là, vraiment, on est très, très positivement surpris. Pour autant, le fait est que on ne communique pas encore sur les chiffres actuellement parce que on estime qu'on n'a pas encore fait le plein de notre lectorat de base. Pourquoi? Nous avons relancé donc le journal le 10 septembre sans faire de publicité audiovisuelle. Pour une raison simple, c'est qu'on espérait avoir une couverture médiatique suffisante pour ce lancement et à ce moment-là rentrer effectivement, je dirais, dans une campagne de publicité plus traditionnelle après. Tout simplement parce qu'il faut savoir, ce n'est pas parce qu'on reçoit quelques millions de la communauté française qu'on roule sur l'or. C'est encore un projet à extrêmement petit budget, évidemment. Et donc, on a eu une couverture médiatique, mais qui n'était pas suffisante. On a été complètement boycotté par RTL et Bell RTL, par exemple. Et donc, on est quand même contraint de lancer une campagne radio sur Bell RTL et sur la RTBF, notamment, à partir de la fin de ce mois ou du début du mois de novembre.
Mais donc on parlait de la pub aussi en tant que rentrée pour vous. Donc il y a d'une part les lecteurs, effectivement. Qu'est-ce qu'il y en a de la pub? Qu'est-ce qui est prévu?
Ah oui, alors ce qui est prévu au niveau de la publicité, c'est que nous aurions deux publicités par semaine au lieu de quatre précédemment. Donc on a diminué notre dépendance publicitaire de moitié. Et on l'a encore plus diminué que ça en réalité, puisque ce sont deux publicités au tarif de moitié inférieur au tarif ancien. Donc en fait, on a divisé notre dépendance publicitaire par quatre, sachant que cette dépendance publicitaire était de l'ordre du tiers auparavant, donc ça veut dire qu'on se situe actuellement au niveau de 10% par là.
Alors, comment est-ce que tu décrirais, pour en venir au fond, le journal du mardi, sa ligne éditoriale, le projet?
Mais disons que La ligne éditoriale n'a pas varié par rapport au départ. Donc l'idée, pourquoi est-ce que des citoyens comme nous le sommes, rejoints maintenant évidemment par d'autres, mais qui sont essentiellement aussi des citoyens, même s'il y a un investisseur qui est plus, qui est une société d'édition, c'est de créer un titre qui est une certaine liberté, une certaine indépendance. Une certaine liberté, ça veut dire que, effectivement, nous nous efforçons, mais chacun connaît les limites de cette démarche parce qu'on vit in a real world, comme on dit. Nous nous efforçons donc, évidemment, de ne pas devenir dépendants d'impératifs financiers dans le cadre de nos choix éditoriaux. Première chose, et je crois pouvoir affirmer qu'à aucun moment dans la ligne du journal, dans la vie du journal, ça a été le cas, que nous ayons essayé de ménager tel ou tel, je dirais, pouvoir économique pour des raisons d'ordre strictement financier.
Dans votre cas, il y a aussi le pouvoir politique qui vous finance. Et certains vous accusent justement d'être parfois un peu gentil avec eux pour être sûr de garder l'argent.
Ben écoutez, non, je crois que ça, je vais d'abord terminer peut-être sur la question de la ligne éditoriale en disant qu'est-ce que l'indépendance, qui est une des deuxièmes caractéristiques du journal, c'est le fait que nous ne roulons pour personne, entre guillemets. C'est-à-dire que nous nous efforçons de garder l'actualité du point de vue du citoyen de préférence et de l'aborder sans être nous-mêmes, je dirais, tenants d'une chapelle, qu'elle soit politique ou philosophique ou autre. Voilà. En gros, s'il fallait résumer, c'est vraiment ça. Alors, par rapport au pouvoir politique, bien évidemment, c'est une question qu'on a pu nous poser, puisqu'on a eu à un certain moment l'image de gens qui étaient en quelque sorte en opposition avec la politique. Première chose, ça n'a jamais été vrai. Nous sommes fondamentalement attachés aux valeurs démocratiques. Et une des manières de vivre les valeurs démocratiques pour le citoyen, pour nous, une manière importante, c'est de s'engager en politique. Donc, nous, on a toujours dit aux gens, non, non, si tous les dégoûtés s'en vont, il n'y a que les dégoûtants qui restent. Et véritablement, le champ politique, c'est un champ du citoyen dans les partis ou à l'extérieur des partis, il faut l'investir. Donc de ce point de vue-là, on est extrêmement clair. On ne s'est jamais situé en marge à ce niveau-là du système politique ou démocratique en Belgique. Mais le deal, entre guillemets, par rapport aux différents partis qui composent la majorité de la communauté française, si on peut appeler ça un deal, parce que pour moi, ce n'est pas un deal en réalité, c'est tout simplement que nous leur avons dit, écoutez, nous savons que tous, chacun à son tour, nous vous avons déjà par le passé un peu bousculé, un peu énervé, parce que, effectivement, une ligne parfois un peu critique et indépendante, ça fait parfois un peu mal. Maintenant, comment dire, cet état de fait se reflétait d'ailleurs dans la relative unanimité du gouvernement pour ne pas au départ donner, octroyer l'aide à la presse au journal du mardi, alors que je rappelle que pour nous, ça n'a jamais été une faveur, ça a été un droit. À partir du moment où les autres éditeurs le reçoivent, il n'y a pas de raison que nous le recevions. Pour nous, ça n'est vraiment pas une faveur et on reste sur cette position-là, c'est tout à fait clair. Maintenant, le seul engagement que nous avons, mais qui est un engagement journalistique que nous avons depuis le départ et donc nous n'avons eu aucune peine à le confirmer, c'est que les différentes tendances en termes de parti ou en termes philosophiques dans le journal viennent à l'ordre du jour de façon également critique, c'est-à-dire soumis de la même façon à ce que j'appellerais l'esprit critique du journal. Et l'important, c'est qu'ils puissent tous s'exprimer. Notre point de vue en tant que journaliste, c'est de dire on n'est pas, nous, on ne dit pas aux gens comment ils doivent penser. Vous savez, il y a ici des gens, y compris parmi nos investisseurs, qui sont de tendances différentes. Il y a des gens qui se diront plutôt un peu libéraux, d'autres qui se diront un peu socialistes, ou très socialistes, ou parfois un peu chrétiens de gauche, enfin bref. Donc il y a ces différentes tendances qui cohabitent, y compris parmi nos journalistes, parce qu'on ne demande pas de carte de parti aux gens qui travaillent pour nous, on demande seulement qu'ils fassent un travail convenable. Donc pour nous, l'enjeu, c'est tout simplement que, les gens dont il est le métier de prendre des positions politiques puissent l'exprimer dans le journal et soient soumis à la contradiction. Point barre. S'ils ne sont pas contents d'être soumis à la contradiction, ben tant pis pour eux. Ils ne sont pas obligés de venir, on ne les attend pas. Mais nous, on insiste pour qu'ils viennent, c'est vrai. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse, je dirais, nous prendre jusqu'ici en flagrant délit de flagornerie à l'égard de l'un ou de l'autre. Je crois que les interviews le reflètent bien. Les questions, elles sont posées parfois durement. Maintenant, effectivement, on pourra dire que un certain nombre de dossiers ou de recherches pourraient faire l'objet d'investigations, on pourrait faire l'objet d'un esprit critique plus grand. Mais ça, c'est une critique que je crois on acceptera jusqu'à la fin de l'existence du journal, si un jour, malheureusement, il devait avoir une fin, ce que j'espère évidemment pas.
J'allais justement aborder le chapitre critique parce que le journal, la nouvelle mouture, en tout cas, n'est pas encore très vieille. Il y a déjà forcément des critiques qui sont d'ailleurs publiées honnêtement par le JDM dans sa rubrique du courrier des lecteurs. D'abord, on vous reproche à la rédaction d'être un peu trop people. Il y a notamment des gens qui n'ont pas supporté Robert Wasset, Jean Couverture. Il y en a d'autres qui disent vous prétendez être différent, mais chaque semaine on a droit à l'interview d'un politicien qu'on voit de toute façon partout ailleurs. Cela dit, dans cette série-là, cette semaine-ci, Amende honorable, c'est Jean Ziegler, c'est pas Charles Michel ou Elio Di Rupo. Mais est-ce que le JDM est trop people?
Moi, je crois que c'est un reproche qui est peut-être un peu forcé. D'une part, c'est très difficile de ce point de vue-là de porter un jugement sur 4 à 5 numéros. On n'en est quand même jamais que là. Alors, si on avait chaque semaine Robert Wasset, Jean Couverture, je crois que ça serait un reproche légitime.
Non, mais il y en a qui disent en quoi est-ce que Wasèche c'est de l'info, c'est du sport, et puis foutez-nous la paix avec ça, on en ingurgite par tous les trous, partout ailleurs.
Mais d'une part, Wasserj a dit des choses chez nous qu'il n'a pas tout à fait dites ailleurs. Ça, c'est la première chose. C'est chez nous qu'il a donné son seul interview d'envergure suite à son éviction d'un club de foot, enfin, du Standard. Et donc, de ce point de vue-là, ne fût-ce à se justifier. Et il l'a fait par sympathie pour le journal, ce qui est une deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier une caractéristique importante du journal, c'est que nous nous efforçons d'être un titre populaire. En d'autres termes, nous nous efforçons d'apporter une actualité complexe. Sans la simplifier, mais en la rendant intelligible aux gens, mais pas uniquement, je dirais, un cercle restreint d'intellectuels. Nous, nous savons très bien faire le journal que nous, on veut à 100%, qui s'adresse à des gens qui ont tous été à l'université, qui ont un certain nombre de critères esthétiques et de contenu, etc. Mais véritablement, nous souhaitons nous ouvrir à une population qui, effectivement, a l'habitude d'une dose de people. Des gens aussi qui recherchent, parce que 2 euros, c'est pas cher, c'est encore 1 euro de moins que le vif, on me dirait.
J'allais venir aussi, 2 € pour un journal d'une petite quarantaine de pages, c'est aussi une des critiques, c'est lié à l'absence de publicité notamment.
Non, ça c'est un autre problème encore. Mais oui, on peut le dire mais aussi. Mais... Donc pour revenir peut-être encore un bref instant sur. Comment dire, sur la première question. Donc, l'idée, c'est véritablement que les gens aussi puissent de plus en plus, et certainement ce sera encore plus le cas si nous avons 8 pages en plus, comme nous en avons l'espoir, puissent considérer le journal du mardi comme un espace de réflexion, mais aussi de détente. C'est le sens, évidemment, du fait aussi de consacrer 3-4 pages à l'humour, que ce soit sous forme de cartoon, que ce soit sous forme d'autres choses plus ou moins créatives. Il y en aura peut-être encore d'autres qui vont se rajouter, certainement si la formule augmente en volume. Tout simplement parce que on ne veut plus avoir cette image, en quelque sorte, qui était largement justifiée, qui était que avec le journal du mardi, il fallait prendre son Prozac. Ben non, il faut que le journal du mardi fasse réfléchir, je dirais, avec des articles de fond, fasse réfléchir parfois aussi avec du people, c'est-à-dire parfois c'est intéressant aussi de faire connaissance avec une personnalité, justement d'aller chercher peut-être ce qu'il y a derrière, mais aussi fasse réfléchir parfois en rigolant. Parfois, un bon cartoon, me semble-t-il, fait autant réfléchir qu'autre chose. Alors maintenant, pour ce qui est du prix, disons que notre politique est de dire que nous devons de toute façon, dans une certaine mesure, refléter dans le prix les coûts que nous avons. Or, il faut quand même savoir que oui, il y a certes 40 pages avec peu de pubs, mais quand on dit qu'il y a 40 pages avec peu de pubs, ça veut dire qu'on a un volume de lecture. Donc un volume de travail payé par des journalistes, et je dirais souvent, parce que ça on nous le reconnaît quand même, de travail approfondi, qui est plus élevé que dans la moyenne. Donc si vous faites le compte de pages rédactionnelles au sens strict, entre par exemple notre titre et des titres qui sont nettement plus gros, mais qui ont des programmes télé, qui ont des pages plus ou moins de publicité, plus ou moins masquées, mais vous verrez.
Beaucoup de publicité ouverte aussi.
Beaucoup de publicité tout court, vous verrez que la personne qui achète le journal du mardi, souvent, achète plus de rédactionnel que lorsqu'il achète un autre titre. Et donc, ne fût-ce que de ce point de vue-là, les 2 euros, je dirais, sont plus que largement justifiés. Et nous avons quand même songé au fait que, je dirais, il y a des gens qui, peut-être, souhaitent au maximum, et c'est logique, limiter leurs dépenses de presse, parce que c'est vrai que ça s'accumule un petit peu. Donc là, nous essayons, parce qu'on ne peut pas faire de cadeaux non plus, on n'est pas un grand groupe, quoi. Donc, mais on peut faire l'effort d'un donnant-donnant avec nos lecteurs en disant, ben voilà, si vous prenez un abonnement, c'est-à-dire que si de cette façon-là vous contribuez à notre trésorerie et que par conséquent nous avons moins de frais financiers, etc., hein, tout est lié, à ce moment-là nous sommes en mesure de vous offrir le journal du mardi à l'ancien prix, j'ai envie de dire, c'est-à-dire à l'équivalent de 60 francs belges, donc c'est avec 12 numéros gratuits par an, c'est quand même 3 mois gratuits par an si on prend un abonnement.
Une autre critique que moi je nuancerais, on vous accuse aussi d'être un peu sensationnaliste. Moi, c'est une réflexion qui m'est venue en voyant certains titres, mais une fois qu'on prenait la peine de lire l'article qui allait avec, le côté sensationnel du titre tombait. Je pense par exemple la pornographie dangereuse pour les adolescents et tout, le dossier était extrêmement nuancé et vraiment bien fait. Il y en a d'autres, mais ils ne me viennent pas tout de suite à l'esprit. Est-ce que c'est une politique de titraille, comme tu disais tout à l'heure, destinée à toucher un autre public qui n'a pas nécessairement l'habitude d'une certaine info et de le prendre par la main pour justement l'amener à lire une certaine info, ou bien il faut y voir autre chose? C'est peut-être du pur sensationnalisme, je ne sais pas, mais.
Mais je crois qu'il y a les deux. En fait, je crois que ce qui est difficile pour un titre, et je crois que c'est encore difficile pour le journal du mardi, parce que sur ce point comme dans d'autres, je crois que nous n'avons pas encore rempli le cahier des charges que nous nous sommes fixés à nous-mêmes. Ben, il y a une volonté d'interpeller le lecteur, c'est clair. Alors on peut appeler ça du sensationnalisme. Moi, du sensationnalisme avec le côté péjoratif, pardon, qu'on attache au qualificatif, moi je dirais, ça voudrait dire de faire, je dirais, du sensationnel au départ de rien. Or, pour moi, le fait d'avoir un titre qui soit un titre accrocheur, où les gens vraiment se posent la question, et non seulement se posent la question, mais se disent, mais je devais me poser cette question et je suis intéressé, je crois pas que on peut peut-être dire que c'est du marketing, mais ce n'est pas du sensationnalisme. Du sensationnalisme, ce serait si on exploite une information en soi non signifiante pour en tirer des conclusions saignantes, on va dire, qui ne seraient pas justifiées, mais ce n'est jamais le cas, je crois, chez nous. Entre-temps, moi, j'assume totalement, je dirais, le reproche éventuel, le sensationnalisme, mais je crois sincèrement que on cherche surtout à éviter le reproche de l'ennui, du fait que parfois aussi en ayant des titres toujours lénifiants, toujours, je dirais, très très rassurants pour le lecteur, quelque part on banalise pas mal de choses aussi. Et notre volonté justement, c'est aux antipodes, on ne veut pas banaliser, on veut interpeller les gens. C'est vrai, si vous achetez le journal le mardi, c'est pour être un peu empêché de dormir parfois.
Dernière critique qui est tout à fait personnelle, je dirais. Quelque part, au début, on vous a accusé de faire votre fonds de commerce de l'affaire du trou, etc. C'est un journal blanc et tout et tout. Et là, depuis la nouvelle mouture, il se passe quand même des choses dans l'actualité de l'affaire du trou et on n'en a pas retrouvé une ligne ou à peu près dans le nouveau JDM. Alors, je suppose que je suis pas le seul quand même à mettre mon espoir dans le journal du mardi pour une autre info sur l'affaire du trou qui est absolument nécessaire, évidemment. Et là, il y en a pas mal qui restent sur leur faim, probablement.
Mais la première réponse à ça, c'est lisez le journal de la semaine prochaine. Première chose. Deuxième chose, c'est que, évidemment, le propos n'est pas du tout d'abandonner ce secteur de l'actualité qui est évidemment, qui reste très important. Le fait est que nous avons sorti 5 ou 6 numéros jusqu'ici et que le simple fait de reprendre pied dans ces dossiers qui sont extrêmement complexes, si ce n'est pas pour, je dirais, ressasser de vieilles infos, comme parfois ça se fait en ce moment dans le reste de la presse, il faut bien le reconnaître, mais pour apporter une plus-value, mais ça ne sert à rien d'en parler. Et donc, rassurez-vous, nous parlerons de ces dossiers, mais nous parlerons de ces dossiers lorsque nous estimerons pouvoir apporter une plus-value. En d'autres termes, nous n'en faisons pas, nous n'avons jamais d'ailleurs fait un fonds de commerce. Chaque fois que nous avons parlé de l'affaire du trou, c'était pertinent, nous avons apporté des éléments nouveaux et nous sommes exactement sur la même ligne. Actuellement, nous n'avons pas encore, nous avons les éléments en préparation, mais nous n'avons pas d'éléments nouveaux publiables ou qu'il soit opportun de publier au jour où je vous parle. Qui sont là. Il y en aura la semaine prochaine d'ailleurs, donc vous pourrez le voir. Et au fur et à mesure que ça se présentera, les choses vont se faire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le monde belge, que ce soit le monde judiciaire ou tous les gens, je dirais, qui sont partie prenante dans notamment ces dossiers, mais il n'y a pas que ces dossiers-là, se sont habitués au fait qu'il n'y avait plus rien, entre guillemets, dans le monde médiatique belge qui permettait d'exprimer un certain nombre de choses. Je ne vais pas entrer dans le détail des raisons, mais toujours est-il que c'est ça. Ils doivent s'habituer eux-mêmes, en fait. En fait, il y a de nouveau un canal d'expression libre par rapport à ce genre de préoccupations.
Voilà, donc ne ratez pas le journal du mardi la semaine prochaine pour du croustillant ou du pas croustillant, simplement de l'info sur l'affaire du trou. Signalons quand même que cette interview était tout à fait un prétexte simplement pour placer ma brillante petite chronique sur les médias qui paraît toutes les semaines dans le journal du mardi depuis la reprise le 10 septembre. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Nico, est-ce que tu as déjà un peu feuilleté le journal du mardi depuis qu'il est ressorti?
Ben oui, mais chaque fois pour lire ta chronique, après faire des
Oh.
remarques et chercher cette petite photo de toi tout à fait exceptionnelle où on voit juste ta tête.
Oui, logiquement, oui, c'est pas mes pieds.
Ouais. Non, oui, j'ai déjà un peu feuilleté. Je trouve que ouais, c'est assez éclectique en fonction des
Moi, une
journalistes.
réflexion que je me fais, c'est quand les gens plutôt, disons, militants voient ça ou plutôt engagés ou quoi que ce soit. Ils disent ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc un peu en pleine couleur, sensation, etc. Et quelque part dans l'interview, Laurent Arnaud le disait bien, c'est un peu un souci de vulgarisation. Ça s'adresse pas justement à des, ça ne prêche pas des convertis. L'idée, c'est d'essayer de toucher un public qui n'a pas nécessairement accès à une information légèrement différente. Sur l'histoire des titres qui sont parfois un peu trompeurs par rapport aux articles, je pense aussi à un article qui s'intitulait Le dernier show de Milosevic et qui, à première vue, ressemblait à un article comme on en lit partout dans la presse sur le méchant boucher dictateur dont la dernière heure a sonné, etc. Et c'était finalement un article très équilibré, ce qui ne veut évidemment pas dire, pour ceux qui seraient prêts à le croire, que c'était un article pro-Milosevic, mais simplement ça, c'était équilibré, voilà.
Moi, j'ai pas envie de trop en parler. Je pense que les gens doivent jeter un œil, voir si ça leur plaît. C'est un journal qui vient d'apparaître. À mon avis, il y a pas mal de choses qui vont se modifier au fil des mois, s'il parvient à subsister. Mais je crois que ça occupe vraiment une place qu'aucun autre journal occupait en Belgique francophone. Ce côté un
Oui,
peu
il
plus
pourrait même y
critique,
en
un
avoir
peu
beaucoup
plus. Bah
plus, mais bon.
ouais.
Voilà, le journal du mardi, dans toutes les bonnes librairies, 2 euros.
This one's dedicated to all you funky people out there. This is Mighty Butterfly DJ, Experimental Girl, Amateur Science Singer. I wear my funky t-shirt, getting down, shooting the bird out of the sky. Here it is, baby. A fine day, sunny day, hey, what will I do? I go to the swimming pool and take a dip into the mighty blue. I lose myself in a baggage of the dream. You see now what I mean? Yeah, I'm putting my finger on the button of time. Sipping out the day with some spicy wine. I'm floating on the sun. Yeah. And I look inside the sea, deep inside of me. And I wonder what I'm gonna do. I guess it's time. Bust on loose. See you at a pool hall, playing a ball, getting your eyes. We wanna go to the disco. Jay, my brother, you know I'm busting loose. Come down my toes, I'm busting loose. Hey, where my disco shoes? I'm busting loose. Curl up your toes, everybody, I'm busting loose. Hey, baby, bring me my disco shoes, you know. A fine day, Saturday, hey, it's boogie time.
Boogie time.
I spit in my sneakers cause I ain't got no shoe shine. I lose myself in a baggage of whipped cream. I got struck out in the Stella Zipper Bean. I'm putting my finger on the button up down. Sweeten up the tea with some spicy wine. I'm floating on the sun. Yeah, you ain't an inspiration cause you ain't got none. I look inside the sea, deep inside of me. And I wonder what I'm gonna do. I guess it's time. I'm busting loose. Come on, everybody, wear them disco shoes. I'm busting loose. Yeah, you know how I do. I'm busting loose. Come on, put on your dancing shoes. Wanna play Monopoly? Surfing on jet skis. eyes. Smiley, smiley. Super fly. And all that good stuff music just made me feel alive. I'm busting loose. Yeah, I'm busting loose.
L'actualité terroriste de la semaine, c'était l'attentat de Bali. La RTBF s'est évidemment logiquement penchée sur la question et a même essayé de faire un petit effort didactique en faisant les choses un petit peu à l'envers. Puisque lundi, Christian Dupont nous gratifiait d'un excellent billet qui relatait toutes les accusations immédiates et nombreuses aussi à l'encontre d'Al-Qaïda. Une fois de plus, il y a un attentat et la poussière est à peine retombée. Hop, on sait que c'est Al-Qaïda, les preuves sont là, etc. Il y a notamment un ministre indonésien, j'ai le billet dans le JT de Christian Dupont sous la main. Il y avait notamment le ministre de la Défense indonésien qui a tout de suite pointé Oussama Ben Laden du doigt. Ils ont appelé aussi ils ont eu un expert dans le JT dans la séquence du JT de la RTBF, expert d'Al-Qaïda qui dit que c'est certainement eux, etc. Ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que à la VRT, il y avait exactement les mêmes images dans le même ordre. Enfin, c'était vraiment le même reportage.
Le même montage.
Commenté autrement, donc c'est clairement des images d'agence, mais le reportage est fait à l'avance. Ils prennent même pas la peine d'un peu monter à leur sauce. Et Christian Dupont, par contre, dans son commentaire, concluait de façon assez intelligente. Je vous cite les deux derniers paragraphes de son intervention. Mais selon d'autres experts, souvent plus au fait des réalités locales, il n'y a aucune raison de voir la main d'Al-Qaïda derrière tous ces attentats. Derrière tous les attentats. En Indonésie, par exemple, ces images de groupes islamistes à l'entraînement le prouvent. Et donc là, on voit effectivement des islamistes qui s'entraînent et qui ont l'air prêts à en découdre. Ces images le prouvent, la violence est endémique, une violence alimentée par un rejet de l'Occident. Ces groupes n'ont pas besoin du soutien ou des ordres du réseau Ben Laden pour agir. Rendre Al-Qaïda responsable de tout, ce serait ainsi faire l'économie d'une question fondamentale. Pourquoi tous ces gens haïssent-ils si fort les États-Unis et leurs alliés occidentaux? Que faut-il faire pour que ce sentiment disparaisse? Fin du reportage. Je trouvais effectivement que c'était une question tout à fait pertinente. Et en fait, la veille, dans un reportage, Adjal Habib avait déjà fait le petit historique didactique. Ça s'appelle Indonésie historique de la sécurité, qui était l'occasion rêvée de nous faire comprendre pourquoi, effectivement, ces gens haïssent-ils si fort les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Adjal Habib s'en est pas si bien tiré que ça. Je vous laisse découvrir son petit reportage.
L'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde, les affrontements y sont fréquents, mais jusqu'ici, l'île touristique de Bali avait été épargnée. Adjal Habib, Chantal Lemaire.
1965, après une répression sanglante d'un putsch commandité par les communistes, le général Suharto s'empare du pouvoir. Il dirigera l'Indonésie d'une main de fer durant 3 décennies. Une des plus longues dictatures de l'histoire, qui prendra fin le 21 mai 1998, lorsque Suharto prononcera sa démission en direct. Mais il est trop tard, le pays est exsangue, l'archipel est au bord de l'implosion. Du nord au sud, des violences séparatistes éclatent. Le Timor oriental réclame son indépendance, l'archipel des Moluques, l'Irian Jaya, Aceh, Bornéo, les Célèbes et même la touristique Bali sont secoués par les affrontements communautaires et les violences séparatistes. L'archipel devient la poudrière de l'Asie. Avec ses 212 millions d'habitants, il est aussi le plus grand pays musulman au monde. Les affrontements entre la majorité musulmane et la minorité chrétienne ont déjà fait des milliers de morts. La violence frappe les villages chrétiens, mais aussi les centres touristiques du pays, souvent fréquentés par les étrangers. Cet été, une bombe a explosé devant une discothèque, 5 blessés. Un karaoké a été incendié, 20 morts. Les rues touristiques sont prises d'assaut par des extrémistes. Ils s'attaquent aux aboles du monde occidental. L'Indonésie est en proie au terrorisme et abriterait des ramifications du réseau Al-Qaïda.
Voilà, il y avait encore une ou deux petites phrases qui m'ont échappé, mais rien d'essentiel. Ça parlait notamment des richesses pétrolières et le fait que cette menace et la fuite des capitaux étrangers qu'elle pourrait entraîner représentent désormais un défi majeur. Alors voilà, c'était pas la voix d'Adjalabib, mais le reportage était d'elle. Pourquoi c'était pas la voix d'Adjalabib? Parce que ça, c'est enregistré dans le journal de la nuit, mais au journal de 19h30, pour vous dire à quel point Adjalabib a fait un boulot brillant. Au journal de 19h30, dans le reportage, donc au début, il est dit, le général Suharto s'empare du pouvoir, il dirigera l'Indonésie d'une main de fer pendant 3 décennies. Adjalabib s'était malencontreusement trompé, ça lui avait échappé, elle a dit, il dirigera les Philippines d'une main de fer pendant 3 décennies. Alors, instantanément, ils ont dû avoir des coups de fil parce que deux, trois reportages plus tard, la présentatrice s'est excusée en disant, il fallait évidemment entendre l'Indonésie et non les Philippines, mais en même temps, ça la foutait très mal et ça en disait long aussi sur la qualité générale du truc. Alors, voilà, qu'est-ce qu'elle nous explique sur les raisons de la haine envers les Occidentaux? La seule chose qu'on apprend, c'est donc, après avoir ré réprimé dans le sang un putsch commandité par les communistes, le général Suharto s'empare du pouvoir et il y restera 30 ans. Eh ben, voilà, ce qu'on va faire, c'est un peu comme pour ceux qui connaissent le journal Pour lire Palu. En page 2, il y a toujours Pour lire Palu rééduque les médias. Eh ben, ce soir, Alter Echo va rééduquer la RTBF. Et donc, c'est toujours ce qu'on a lu dans tel média et ce qu'on aurait dû lire. Eh ben, voilà, je vais vous raconter la vraie histoire de l'Indonésie et comparer ça à ce que Adjalabib nous a dit. Ce qui s'est passé en Indonésie en 1965 est en fait exemplaire pour de nombreux autres pays. Donc, l'Indonésie était sous la coupe des Hollandais. Et après l'indépendance, c'est Sukarno, un leader nationaliste qui dirige le pays. Les deux, donc ça c'est en 48. Les deux grands centres de pouvoir en Indonésie à l'époque sont l'armée et le PKI, le Parti communiste, qui est la seule force d'ailleurs qui bénéficie d'un soutien de masse au sein de la population. En parvenant justement à équilibrer ces deux forces, Sukarno est en fait l'homme de la situation. Mais dès son accession au pouvoir en 1948, il donne des gages de modération, entre guillemets, au monde occidental. Il fait anéantir une réforme agraire soutenue par le PKI, donc le Parti communiste. Il dévaste la direction politique de ce parti et il fait emprisonner 36 000 personnes. Donc il est jugé plutôt sympa. Seulement après ça, il maintient son cap nationaliste et aussi non aligné, donc ni Est ni Ouest à l'époque, et son régime ne se montre pas un allié assez fiable pour l'Occident. Et pourquoi l'Occident et les Américains en particulier s'intéressent-ils tant à l'Indonésie? Je vous le demande. Eh bien, d'une part, il y a les ressources naturelles, il y a énormément de pétrole évidemment, mais pas que ça. Il y a aussi notamment le bois exotique, par exemple. Aujourd'hui encore, l'Indonésie pille absolument la Papouasie occidentale. On en avait parlé dans une émission d'Alter Echo. Allez voir dans les archives. C'était avec un représentant de l'association ICRA. D'autre part, évidemment, l'Asie du Sud-Est à l'époque connaît une tentation communiste, comme beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, et plusieurs régimes communistes menacent de voir d'ailleurs le jour à l'issue d'élections démocratiques dans cette région. La guerre du Vietnam, avec ses extensions au Cambodge et au Laos, illustre notamment très bien le problème. C'était tout ce problème, la théorie des dominos. Si un pays tombait aux mains des communistes, ça allait tout le reste aussi. Donc les États-Unis veulent vraiment sécuriser cette région. Et donc, dès les années 50, ils organisent la subversion en Indonésie en soutenant les partis de droite d'une part et en fomentant aussi une insurrection armée contre Sukarno. Mais manque de bol, l'insurrection est un échec, et donc les Américains coupent les aides économiques à l'Indonésie pour plutôt consacrer ces budgets à une aide militaire et à un entraînement des forces armées. Et ce genre de scénario n'annonce en général rien de bon, puisque c'est par exemple exactement ce qui s'est passé au Chili avant le coup d'État contre Salvador Allende en 1973. Et effectivement, ce qu'on pouvait présager arrive. Fin septembre 1965, il y a un coup d'État en Indonésie, et c'est le général Suharto qui prend le pouvoir. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Le coup d'État était un peu un coup fourré. Mais l'histoire des vainqueurs, l'histoire est toujours celle des vainqueurs, évidemment. L'histoire des vainqueurs attribue le coup d'État au PKI, le Parti communiste. Pourtant, des études historiques mettent fortement en doute cette version officielle. Et ce serait d'ailleurs pas la première fois qu'un coup d'État serait mis en scène pour justifier une soi-disant réaction violente. Pour ce qui est de l'implication des États-Unis dans ces événements, on ne saura jamais, puisque les documents internes américains datés entre juillet et septembre de cette année 1965 n'ont jamais été rendus publics, tandis que tous les autres, oui. Bizarre. Pourquoi juste cela? Et en plus, l'ambassadeur américain de l'époque, pardon, dans un rapport, à sa base, à Washington, admet qu'il n'a pu établir aucun rôle du parti communiste indonésien dans le coup d'État, mais néanmoins il recommande de clamer que ce sont les communistes qui ont fait le coup, histoire de renforcer la version officielle. En tout cas, quoi qu'il en soit, Suharto prend le pouvoir et entame une répression sanglante des communistes, entre guillemets, parce que, en fait, il n'y a pas que les communistes qui y passent, c'est à peu près tous ceux qui flairent un peu l'opposition. Et on ne saura jamais non plus combien de personnes trouvent la mort dans les premiers mois de son régime. Les estimations du bilan de ce gigantesque massacre varient entre 500 000 morts, ça c'est le chiffre des services de sécurité indonésiens eux-mêmes, donc on peut estimer que c'est certainement une estimation basse, et donc entre 500 000 morts et beaucoup plus d'un million selon Amnesty International. À part les morts, il y en a encore d'autres, 750 000 personnes qui sont jetées en prison, et certains de ces prisonniers politiques croupissent encore aujourd'hui dans les geôles indonésiennes, bien sympathique. Quelle que soit l'implication des Américains, ils savent très bien ce qui se passe et ils applaudissent l'avènement de Suharto, qui n'est pas du tout un espèce de nouveau Hitler, comme aujourd'hui on traite les Milosevic et les Saddam Hussein. Non, non, c'est notre genre de type, c'est ce qu'ils avaient dit à l'époque. Bref. Et conséquence directe, évidemment, de la prise de pouvoir de Suharto, l'aide économique se met à couler à flot, le pays s'ouvre aux investissements, c'est-à-dire au pillage de ses ressources par des multinationales occidentales, ce qui continue aujourd'hui encore également, et les livraisons d'armes aussi augmentent pour soutenir l'effort de cette démocratie naissante. Déjà, à l'époque, il y avait des démocraties naissantes qu'on soutenait par des livraisons d'armes. Et la Banque mondiale aussi redécouvre l'Indonésie, qui devient très vite son troisième bénéficiaire dans le monde, ce qui est quand même considérable. Et puis la presse américaine, un rôle non négligeable, de son côté, la presse américaine applaudit des deux mains le succès des modérés, c'est le mot qui revient à chaque fois. Donc les modérés ont pris le pouvoir, ce sont ceux qui ont massacré probablement un million de personnes, c'est eux les modérés. Parce que les autres sont des extrémistes communistes, évidemment. Donc les modérés, il faut comprendre, ceux qui ne se mettent pas en travers de nos intérêts. Avec le temps, les massacres sont dans la presse toujours sont attribués aux communistes et finalement tout le monde est content. Donc quand on rappelle un peu l'histoire de l'Indonésie, notamment en 1977, je crois, dans le Los Angeles Times, on dit oui, Suharto était arrivé au pouvoir suite à un coup d'état des communistes qui avait mené une répression féroce et c'est après que Suharto avait pris le pouvoir. Enfin bref, l'histoire des vainqueurs. Donc tout le monde est content, sauf peut-être les Indonésiens eux-mêmes, qui se voient pillés à la fois par leur dictateur et par ses alliés occidentaux. Et puis, au fil des ans, il y a encore eu la tragédie de Timor-Est, où l'Indonésie a envahi ça avec la bénédiction et le soutien logistique, c'est-à-dire les livraisons d'armes massives des États-Unis. Ils ont envahi Timor-Est, ils ont tué à peu près le tiers de la population, 200 000 personnes selon des estimations prudentes sur environ 700 000 de population au départ. Il y a encore aujourd'hui la Papouasie occidentale, comme je le disais, qui est complètement pillée. Et puis, il y a comme on entendait dans le billet d'Adjal Habib et Chantal Lemaire, toutes les velléités indépendantistes qui se font jour depuis que le dictateur est parti. Apparemment, on n'a pas trouvé le bon remplaçant. Depuis lors, ça s'est succédé assez vite à la tête de l'Indonésie. En tout cas, à la lumière de ces précisions, on entrevoit justement peut-être une réponse à la question de Christian Dupont. Pourquoi tous ces gens haïssent-ils si fort les États-Unis et leurs alliés occidentaux ? Que faut-il faire pour que ce sentiment disparaisse ? Mais en tout cas, à la première partie, il me semble que j'ai déjà une réponse. Je pense que quand dans un pays, quelqu'un peut se permettre de massacrer genre un million de gens et qu'on sait très bien que c'est avec l'allié des futurs maîtres du monde, mais qui à l'époque était déjà quand même maître de la moitié du monde, bah, forcément, il me semble qu'on en veut un peu à ces puissances-là, en l'occurrence les puissances occidentales. Qu'en penses-tu, Nicolas ?
Je suis assez convaincu par ta démonstration.
Merci. Voilà, bah, c'était Alter Echo, Rééduc, la RTBF. J'espère que Adjal Habib était à l'écoute. On aurait bien voulu l'interroger justement sur ce petit billet qu'elle avait fait, mais hélas, elle ne travaillait pas à l'RTBF aujourd'hui et je n'ai pas réussi à obtenir son numéro de téléphone privé. Je ne voulais d'ailleurs pas la déranger un jour de congé avec des questions ennuyeuses. Passons à notre petit sujet sur la presse économique et financière. C'est pas tous les jours qu'on en parle, enfin pas toutes les semaines plutôt qu'on en parle dans Alter Echo. Nicolas, tu peux commencer. Toi, tu avais vu un petit truc sympathique sur notre chroniqueur boursier préféré.
Oui, Jean-Marc Sylvestre, à mon avis, le nom vous dit rien.
Jean-Marc Pour les gens Sylvestre. Qui écoutent France Inter, sans doute.
Mais autrement, il est journaliste de TF1 aussi. Et
c'est Mais il est à France Inter, non ? Ou je me trompe ?
Tu te trompes.
Ah bah, je me trompe, autant pour moi.
C'est le journaliste économique de TF1 et c'est celui dont les guignols se foutent tout le temps. C'est le gars très... tu sais, qui connaît par cœur tous les indices boursiers. On le voit souvent autour du JT TF1.
Oui, c'est son métier quand même.
Oui, voilà, mais on sent qu'il est assez exalté. Et en fait, le canard enchaîné a révélé une petite anecdote marrante sur lui. Donc ce gars qui est journaliste économique à TF1, qui est un véritable adulateur du marché, il s'en cache pas du tout, c'est vraiment une espèce de prophète passionné, on va dire, du néolibéralisme, qui a été tout au long de sa carrière un opposant très farouche, de sa carrière télévisée en tout cas, un adversaire très farouche de ce qu'on appelle l'État-providence. Donc il dénonçait sans arrêt le trou de la sécurité sociale, en somme.
Les marchés n'aiment pas l'État-providence.
Ouais, c'est ça. Ce côté de l'État qui finance les pauvres, qui redistribue, qui aide
tout
ceux
ça
qui ont
avec notre
moins.
argent.
Exactement. Donc, en bon libéral, il défendait inlassablement plutôt la flexibilité de l'emploi et l'investissement dans des fonds de pension privés beaucoup plus rentables que les pensions publiques et le trou qu'elles occasionnent dans la sécurité sociale. En somme, Jean-Marc Sylvestre répétait sans cesse, répercutait sans cesse la question qui semblait l'obséder, pourquoi payer pour les autres?
C'est vrai.
Ça l'a bouleversé. Alors figurez-vous que cet été, il est arrivé un véritable miracle. Jean-Marc Sylvestre est tombé très malade. Le pauvre Jean-Marc a failli y passer, hospitalisé, opéré. Il a finalement été sauvé de justesse. Il sort de l'hôpital, remis sur pied, et il décide de faire son petit comeback dans l'écho, dans Les Échos, journal français. Il revient complètement sur ses positions antérieures, sur ses positions hyper libérales, et il dit, donc à l'hôpital,
Il a eu
dit-il,
des hallucinations suite à la fièvre ou qu'est-ce qui s'est passé?
bah écoute, l'explication n'est pas donnée, mais en tout cas le revirement est total. Je vais le citer, hein, c'est assez touchant. À l'hôpital, dit-il, j'ai découvert qu'il y avait autre chose. J'étais à 100 lieues d'imaginer le dévouement des infirmières et des médecins. Donc ce gars revient d'une autre planète, découvre des gens dévoués pour pas cher. Jean-Marc, donc complètement surpris, découvre un petit peu qu'il n'y a pas que le 4,40 dans la vie.
Le
Le
CAC
CAC 40, oui,
40,
j'avais écrit
ouais.
CAC, mais je sais pas, ça sonne toujours 4, je trouve, 4,40. Enfin bon, il découvre qu'il n'y a donc pas que le CAC 40 dans la vie. Certaines autres valeurs semblent animer ses semblables, notamment ce qu'on pourrait appeler la solidarité, attitude peu rentable s'il en est. Et le système de sécurité sociale n'est pas qu'un complot appuyé par quelques syndicalistes paresseux. C'est aussi la matérialisation de cette fameuse solidarité publique. Et
Donc en
ça.
fait, il l'a découvert à l'occasion de sa maladie, mais moi je me disais que les gens comme lui, ils doivent avoir des assurances privées pour des hospitalisations dans des hôpitaux privés, etc., non?
Mais il ne pensait pas que sa maladie serait si grave, à mon
Ah
avis. Il ne
ouais.
pensait pas que ça lui coûterait si cher. Donc il nous dit, texto un peu plus loin, sans la sécurité sociale, je n'aurais jamais eu les moyens de payer cette chance de survivre. Et plus loin, il se déshabille complètement et il nous dit, jusqu'à cet été, je ne connaissais de notre système de santé que l'ampleur du déficit de l'assurance maladie. Depuis, je sais que ce déficit que j'ai tant critiqué m'a sans doute sauvé la vie. Et ben voilà, comme le souligne le canard enchaîné du 2 octobre 2002, ben on peut applaudir Jean-Marc Sylvestre et remercions-le chaleureusement nous avoir fait part de son retour à la vie et
Mais est-ce que
de
ses
son
chroniques
retour parmi
boursières ont
nous.
complètement changé ou pas?
À mon avis, il va faire autre chose, il va se soigner. À mon avis, il va faire autre chose. Je pense que là, il va plus être crédible comme commentateur du marché. Je pense qu'aussi, sa santé physique est un petit peu obsolète, là.
Oui, ben va ouvrir la
Enfin, son
porte
état
parce qu'on
physique
a
est un
sonné
peu. Tu me
ici.
fais des
Pendant
signes, alors
que
je dis des
oui, va
conneries.
ouvrir la porte pendant que
Va ouvrir la
je
porte.
parle à nos auditeurs. Quelqu'un a sonné. Pendant que je parle à nos auditeurs de la pub pour l'écho, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télévision, mais c'est absolument lamentable. Non seulement, bon, déjà, le petit clip est ridicule, c'est un chercheur d'or qui regarde dans le fond d'une rivière, et puis la caméra passe en haut, et on voit en fait le fond de son tamis, c'est le journal L'écho, et puis il trouve de l'or, il est tout content, et le slogan c'est l'information rentable. Alors on se demande si les infos qui existent mais qui ne sont pas rentables se retrouvent dans l'écho ou non. Mais toujours est-il que de l'info rentable, j'en ai trouvé, justement, pas dans l'écho, mais dans une interview diffusée par Canal Z. C'est une télévision économique et financière flamande qui a été lancée par le Financial Economy Cetet, mais qui risque bientôt de disparaître, faute de rentabilité, justement. Elle coûte trop cher et elle rapporte pas assez. Ça m'a bien fait rire. Mais alors, passons à l'interview. C'est une interview tout à fait économico-financière sur la crise en Irak et la guerre probable qui va arriver. Alors, en fait, donc la personne qui est interviewée, c'est un certain Peter Vandenhout, économiste boursier à la BBL. Et le sujet du jour, c'est une invasion en Irak aura-t-elle lieu ou non, et quand est-ce qu'elle pourra avoir lieu. Tout ça ennuie un peu les marchés, parce que ce qu'ils détestent, c'est l'incertitude, et donc on va demander à un gourou boursier ce qu'il en pense. Alors il dit oui, c'est quand même dommage pour les marchés que la guerre puisse, enfin le déclenchement de la guerre puisse encore durer un petit temps, parce que les marchés n'aiment pas l'incertitude justement, et donc il explique que c'est à cause d'une raison logistique, la force aérienne américaine a besoin d'une base aérienne pour attaquer l'Irak. Et les Saoudiens ont refusé de laisser utiliser leur base pour ça, donc ils sont en train de construire une base au Qatar, et la guerre ne pourra pas commencer avant début décembre, voire mi-décembre. Donc une raison pratique, dit le type qui l'interview, mais il y a d'autres obstacles, la Russie, l'Allemagne et la France qui ne sont pas d'accord. Il dit, et là, Peter Van Anout dit oui, et là, son conseil de sécurité, ce serait quand même bien si tous les membres permanents étaient d'accord pour une invasion de l'Irak. Mais pour la Russie, ils disent c'est en fait pas un problème, on peut acheter la Russie, il n'y a pas de problème, ils ont des intérêts dans le secteur pétrolier en Irak, et si on leur garantit qu'ils seront préservés après la guerre, la Russie franchira le pas. Alors, le mec de Canal Z lui demande, mais donc, en fait, c'est tout tourne autour du pétrole, alors. Et il dit, oui, effectivement, là, le Peter Van Anout commence à décrire la valse des prix. En général, on constate que, au début, quand la guerre commence à se construire et qu'on est sûr de rien et tout, les prix du pétrole montent à cause de cette fameuse incertitude. Mais la guerre, heureusement, quand elle éclate, apporte la clarté. Et donc, les prix du pétrole baissent et tout va beaucoup mieux. Et, il explique aussi l'avenir de l'Irak, pourquoi l'Irak est important pour les prix du pétrole. Parce que, dit-il, maintenant les exportations de pétrole de l'Irak sont extrêmement limitées à cause de l'embargo. Mais si un nouveau régime arrivait, tombé du ciel, les exportations augmenteraient, ça foutrait en l'air la stratégie de l'OPEP et les prix du pétrole descendraient. Ce serait tout à fait sympathique. Alors, même chose pour les actions, sauf que c'est en sens inverse. Pour les actions, au début de la guerre, l'incertitude, tout ça, les actions baissent. Mais au moment où arrive la guerre effective, c'est super chouette parce que les actions montent en flèche. Et ils tirent d'ailleurs tout un parallèle avec ce qui s'est passé lors de la guerre du Golfe. Et alors là, c'est le passage que je vais vous citer parce que c'est vraiment le plus beau. Enfin, en fait, je vais vous le traduire, donc excusez si c'est un peu haché. Donc la question du journaliste de Canal Z, donc ça signifie éventuellement aussi des opportunités. On venait de parler d'actions. Donc, dans quel secteur doit-on investir? Quelles actions? Réponse, je pense qu'à court terme, évidemment, il y a encore cette très grande incertitude. On ne sait même pas, par exemple, s'il peut encore y avoir une solution diplomatique. Mais partons du principe, et je pense que c'est probablement le scénario le plus plausible, qu'il y ait un affrontement militaire. Alors, il est clair que à court terme, ce sont les actions plutôt défensives qui vont bien marcher. Et quand je dis action défensive, je pense en première instance aussi au secteur de la défense. Et on voit là qu'un certain nombre d'entreprises de ce secteur ont eu de très bons résultats ces dernières semaines, de très bonnes cotes en bourse. Par exemple aussi les sociétés pétrolières qui profitent encore toujours des prix du pétrole en hausse. Mais attention, dès que cette phase de crescendo vers le conflit commence à se terminer, donc pour arriver dans le conflit à proprement parler, je pense qu'il faudra très vite switcher vers des actions plus orientées vers la croissance, parce qu'une solution en Irak signifierait à nouveau le signal pour attirer à nouveau la croissance, et à ce moment-là, il est clair qu'il vaut mieux investir dans des actions à caractère de croissance, et tourner le dos à ce moment-là à ces actions défensives. Et donc, dernière question du journaliste. Oui, on suivra ça de très près. Mais pour terminer, est-ce que tout ce conflit n'est en fait pas un espèce de paratonnerre pour masquer des problèmes économiques plus profonds? Et bon, là, il répond, oui, effectivement, il y a des problèmes économiques, mais n'oublions jamais que le pétrole est un facteur crucial pour l'économie mondiale et que lorsque ces prix du pétrole, si jamais ces prix du pétrole redescendaient brutalement après un conflit, eh ben, ça signifierait un bon petit coup de fouet pour la croissance dans le monde entier. Moi, ça m'a complètement scié, cette espèce de limpidité, d'abord, parce que c'est une analyse extrêmement claire et tout à fait juste, mais aussi presque la candeur, mais en tout cas la sincérité et disons-le, finalement, le cynisme. Et c'est d'ailleurs un constat général aussi, c'est dans la presse économique et financière qu'on peut trouver les analyses les plus limpides. Et aussi, d'ailleurs, la presse économique et ou militaire. Parce que quand il s'agit de choses militaires, si on va voir dans des magazines militaires spécialisés, là, ils s'adressent à un tout autre public. Donc, les magazines financiers, c'est les gens qui investissent en bourse. et les magazines militaires, c'est plutôt les gens que ça intéresse. Donc il n'y a pas un public général qui va être effarouché par les propos insupportables qu'ils tiennent. Et donc ils peuvent se lâcher, ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Et c'est notamment ce qui fait la richesse aussi des grands gourous de la critique média. Par exemple, Chomsky fait régulièrement des citations qui sortent de magazines militaires et qui sont parfois hallucinantes. On retrouve la même chose aussi parfois chez Serge Halimi ou d'autres. Voilà. Ben Nicolas, on avait prévu encore un petit morceau de musique, mais on a parlé un petit peu trop longtemps. Donc passons tout de suite à ton dernier sujet du jour.
Tu as surtout beaucoup parlé.
C'est vrai.
Non, il y a. Ouais, l'autre sujet du jour, bah, c'était un petit truc. J'essaye de. Enfin, souvent, quand je regarde le JT de la RTBF, parce que le JT d'RTL TVI m'est carrément insupportable. Là, par hasard, en fait, je le regardais pas vraiment, mais ça devient un petit peu dur. Enfin, ouais, je regardais le JT de la RTBF accidentellement et j'entends hier, JT 19h30, en plein milieu du JT, un énorme sujet à l'eau de rose sur le fameux tueur en série de Washington qui terrorise tout le monde jusqu'en Belgique. Et il y a là deux journalistes de la RTBF qui sont jetés sur l'affaire, Marianne Clarick et un type qui s'appelle Philippe Gassot, je pense, qui est l'envoyé spécial de la RTBF à New
Non,
York.
c'est un Français,
Ah.
un correspondant de France 2, je crois.
Mais il est à New York en permanence,
Ouais,
quoi.
correspondant.
Alors tous les deux s'y sont mis, ont fait des sujets, enfin, je vais vous citer, je pense que c'est assez frappant, l'introduction du sujet de Marianne Clarick, donc sur le 9e meurtre du tueur de Washington. Elle parle de la victime. Elle s'appelait Linda Franklin. Elle a été abattue sans aucune raison. Elle sortait d'un magasin de bricolage avec son mari et elle chargeait ses emplettes dans sa voiture. Une balle, une seule, comme à chaque fois. Ce soir, la police du comté est sûre qu'il s'agit du même sniper.
Quelle belle stylisation d'un fait divers.
Ouais, donc c'est du fait divers, mais tiré vraiment. Il l'exploite au maximum. On a encore enfin, du blabla comme ça pendant 1 minute. Et Marianne Clarick conclut un tireur qui tue pour jouer. Le truc complètement terrifiant. Et là, on se dit, bon, ouais, c'est bon, on a eu notre dose de faits divers, on s'en fout de ce gars. Et c'est vrai qu'on est triste pour Linda, mais il y a quand même un paquet d'autres gens qui crèvent tous les jours dans des conditions nettement plus sinistres, enfin, ou plus politiquement signifiantes, on va dire. Et alors là, on enchaîne avec le fameux Philippe Gassot. Ben, à mon avis, il avait préparé un sujet pour France 2 que la RTBF a repris tel quel. Et lui, même chose, il fait des micro-trottoirs, des machins, il tire en longueur. Et je vais vous citer juste la fin
C'est
du
vrai que le sujet
reportage.
était terriblement long.
Ah ouais, c'est un des plus longs sujets
Hein.
JT qu'on ait pu décortiquer. Donc là, la fin de son reportage, on voit une femme à une station essence qui se réfugie dans sa voiture. On voit la femme se réfugier dans sa voiture et il dit cette femme qui se réfugie dans sa voiture, ce qui confirme ce qu'on est en train de voir, en attendant le plein d'essence, c'est nouveau pour cette femme, sa vie a changé, elle en a conscience, mais c'est comme cela. Et pour les affaires, ça va pas trop fort, il enchaîne, et on voit un homme. Alors c'est sous-titré un homme qui nous dit la situation vraiment est catastrophique. Il confirme, la situation est catastrophique, mais nous dit Philippe Gassot, quand même soucieux de mettre une petite touche de journalisme économique, les livreurs à domicile font des affaires, teinturiers, pizza et épiciers, les jardins publics, eux, sont vides, les enfants ne sortent plus, la vie est suspendue. Et la conclusion de Philippe Gassot est énorme. Les Américains de Washington et de sa banlieue craignent maintenant que derrière chaque arbre se dissimule un tireur. Chaque geste de la vie quotidienne devient un geste de courage. Les Américains sont traumatisés, ils n'avaient pas besoin de cela. Et voilà, ça termine. On a tous envie de sortir nos mouchoirs pour les pauvres habitants de Washington. Et voilà.
Alors que...
Non, alors que bah, y a un tas de choses à dire. Moi, j'ai lié cette histoire-là avec. Comme je disais au début, il y a tellement de morts scandaleuses dans le monde tous les jours. Et pour une fois qu'on voit des journalistes un petit peu mettre de l'émotion, c'est pour une mort qui est sûrement triste pour toute sa
Ah
famille.
ça, c'est une débauche d'émotion, oui.
Mais c'est ouais, une vraie débauche d'émotion pour une mort strictement non polémique, apolitique au possible.
Un fait
Alors
divers,
que,
quoi.
ouais, mais bon, il y a des faits divers dont tu peux tirer beaucoup de choses
Oui, c'est
intéressantes, à
vrai.
mon avis. Alors que, on pourrait faire le même sujet sur une petite famille au Népal. Qui est, par exemple, moi je vais vous citer des exemples tout sortis d'un rapport des Nations Unies. On pourrait imaginer une gamine de 13 ans qui attend sa mère enceinte de 5 mois, qui a été tout d'abord arrêtée, accusée de participer aux milices communistes. Et puis en fait, elle est relaxée par les plus hautes autorités judiciaires du district où elle habite. Et puis finalement, les flics ne sont pas contents avec la sentence, donc ils la coffrent de nouveau et la bonne femme enceinte de 5 mois disparaît. Elle ne revient plus jamais. Imaginons que le père de cette gamine de 13 ans soit taximan. Et ben je vois dans le rapport des Nations Unies tout récemment un taximan qui participe à un arrêt de travail. Il faut savoir que le Népal est un des pays les plus pauvres du monde, donc imagine des conditions salariales dégueulasses, Le type fait un petit arrêt de travail, et ben il est arrêté, torturé, et il revient pas non plus à la maison. Alors pour les techniques de torture,
Mais les palais n'avaient pas besoin de ça.
Ouais, pour les
Ça, on
techniques.
n'entendra jamais au JT,
On
quoi.
n'entendra jamais ça au JT. Pour les techniques de torture, il les cite aussi dans le rapport. Il y en a un tas qui sont assez minouches, notamment les chocs électriques, suspension par les cheveux, immersion dans des trucs complètement clos, donc dans un.
Ah,
Enfin
les
bon.
naissances des démocraties sont parfois laborieuses, hein.
Voilà, et puis on peut s'imaginer que finalement la gamine et son grand frère de 16 ans aillent se plaindre au commissariat parce que les parents rentrent pas, et puis qu'on les retrouve tous les deux cramés un peu plus loin dans le commissariat. Tout ça sont des faits réels, sauf que c'était pas une petite famille, enfin on espère. Et voilà, ben moi je me demande finalement après tout ça, quand est-ce qu'on va entendre les récits déchirants de ces victimes à la RTBF? Et en plus, la RTBF a une conclusion que je pourrais lui souffler. Elle pourrait conclure que dans peu de temps, grâce à la ferveur et au dévouement démocratique de Louis Michel, ben, cette petite famille pourra confortablement se faire massacrer avec des armes belges.
Oui, une balle dans la tête plutôt que de longues tortures,
Ben
finalement,
voilà.
une balle de minuit.
Merci Louis
Mais
Michel.
on reviendra peut-être sur le sujet la semaine prochaine,
Ben
puisqu'on avait
j'espère.
essayé d'avoir un point de vue écolo sur les dernières évolutions dans ce dossier,
Voilà,
et que
mais.
nous n'avons pas eu Claudine Drillon au
Qui
téléphone.
nous
Si elle
a
nous écoute, appelez-nous,
copieusement
Claudine.
raccroché.
Exactement, mais ce sera. On fait ça la semaine prochaine?
Sûrement.
On fait ça la semaine prochaine. Rendez-vous est donc déjà pris pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura donc probablement un petit sujet Népal, mais aussi une correspondance de Montréal. Nicolas s'y trouve à Radio-Canada. Il a beaucoup de choses à dire sur les médias québécois. Et puis bien d'autres sujets encore, tous plus intéressants les uns que les autres, évidemment. Et en attendant, retrouvez les diffusions, les rediffusions tout simplement le vendredi à 14h sur Radio Campus 107.2 et le mardi matin sur Radio Panique 105.4 vers 10h. Et puis si vous n'avez pas la radio, écoutez-nous sur Internet, sur le site, les archives notamment, www.collectif au pluriel.net/alterecho. Alterecho, ça s'écrit en un seul mot et avec CH. Vous savez tout, à la semaine prochaine.